18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et vous le disiez, la perspective d'un confinement qui va durer 15 jours d'efforts supplémentaires au moins, c'est ce que devrait annoncer le Premier ministre d'ici quelques instants. Pas d'assouplissement et davantage de contrôle.
Les commerces ne devraient pas rouvrir, les lycées ne devraient pas fermer. Jean-Rémy Baudeau est à Matignon, on sera avec lui dès le début du journal.
Action symbolique, justement à l'occasion de cette prise de parole, des libraires, des écrivains et des éditeurs font entendre leur voix à bord d'une péniche sur la Seine.
Le coup de massue pour Bridgestone à Béthune. Le gouvernement avait pourtant promis de sauver l'usine de pneumatiques.
Mais le couperet est tombé, elle va bien fermer. 863 personnes y travaillent.
Une anesthésiste qui exerçait en état d'ébriété poursuivie pour un accouchement fatal, condamnée à 3 ans de prison et interdiction d'exercer.
Et puis surtout, essayez d'éviter de crier pour ne pas postillonner. Les Japonais préparent les JO de l'été prochain et ils pourraient exiger le silence des spectateurs. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 1,52%. À 5362 points.
Elle ne crie jamais, Anissa. Bonsoir, vous nous avez rejoint pour un point sur la météo. Le temps change demain.
Oui, demain sera certainement la moins belle journée de la semaine, en tout cas sur la moitié nord, puisque le ciel sera gris avec de la pluie au programme. Dans le sud, c'est toujours printanier. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous sommes donc dans l'attente de la prise de parole du Premier ministre. Ce nouveau point sur la crise sanitaire avec un gouvernement qui, clairement, n'est pas prêt à lâcher du lest.
Oui, avant même cette prise de parole, Jean Castex a donné le ton dans le journal Le Monde. Ce n'est certainement pas le moment de desserrer la bride, ce sont ces mots.
Alors on vous retrouve à Matignon, Jean-Rémy Baudeau, vous serez avec nous tout au long de ce 18-20. Et on le disait, Jean-Rémy, assez peu d'espoir d'une amélioration de nos conditions de vie.
Oui, le mot d'ordre ce soir, c'est statu quo. À Matignon, on le reconnaît, il est trop tôt pour changer de stratégie. Le pic des hospitalisations n'est pas atteint. Il serait aventureux d'ouvrir les vannes, fait valoir un proche collaborateur du Premier ministre, Jean Castex, qui devrait rappeler que l'heure n'est pas au relâchement. Oui, les chiffres sont encourageants, mais ils vont encore augmenter. Le Premier ministre en première ligne, c'est lui qui porte la clause de revoyure après 15 jours de confinement promis par Emmanuel Macron. C'est donc lui qui portera les éventuelles critiques des commerçants déçus si effectivement il n'y a pas de nouvelle réouverture. Il faut qu'il explique, qu'il donne des perspectives, reconnaît son entourage, au risque de laisser une partie des Français dans l'incompréhension. L'épisode des librairies a fait craindre au plus haut sommet de l'État que la population ne se cabre. Comme le reconnaît un proche de Jean Castex, on fait certainement pas tout bien. Mais on ne gouverne pas en fonction des sondages.
Jean-Rémy Baudeau, vous suivez pour nous cette conférence de presse du Premier ministre et vous nous appelez évidemment à tout moment dans le courant de ce journal dès que vous en savez davantage.
C'est l'autre actualité de ce jeudi. L'usine de pneumatiques Bridgestone de Béthune dans le Pas-de-Calais va bien fermer. La direction a refusé le plan de sauvetage proposé par Bercy.
863 emplois vont disparaître. C'est un deuxième coup de massue après l'annonce de la fermeture du site le 16 septembre.
Oui, le ministère de l'économie avait pourtant, on s'en souvient, présenté ce plan qui prévoyait la poursuite de l'activité et le maintien d'un peu plus de 500 postes.
Un plan qui vient donc d'être rejeté. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1 et pour les salariés, Lionel, c'est la fin des illusions.
Ah oui, effectivement, mais vous savez, pour les salariés ou les représentants syndicaux avec qui j'ai discuté cet après-midi, il n'y en avait pas beaucoup pour croire à ce scénario d'un investissement massif pour leur usine. Pour eux, la fermeture était en fait programmée et le site déjà condamné depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai, ils accusent à nouveau le coup ce soir.
Là, c'est même pas de la colère, c'est de la tristesse, quoi. C'est de la façon que Bridgestone l'a fait pendant une période de Covid en plus. Maintenant, on a un sentiment d'avoir été baladé.
Deuxième claque, on s'est pris une claque le 16 et on s'est pris une claque aujourd'hui, le 12. On a 863 salariés. C'est très dur pour nous, très dur pour nous.
Pour l'instant, on n'arrive pas encore à imaginer, mais le jour que ça sera le dernier jour, là, ça sera difficile.
Alors maintenant, il va y avoir la mise en œuvre du plan social. Le géant japonais du pneu assure qu'il va chercher un repreneur, des solutions de réindustrialisation ou de reclassement pour les salariés. Mais la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, attend des propositions concrètes.
Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas que des paroles, mais qu'il y ait des actes et des actes forts sur les possibilités de reprise. Nous allons nous battre pour que ce site reste industriel et nous battre pour que chacun des salariés, chacune des familles qui sont aujourd'hui en situation de difficulté puisse trouver une solution.
En attendant, il va falloir contenir les mouvements de colère au sein de l'usine, me confiait tout à l'heure un responsable syndical, car cette fermeture, elle va faire beaucoup de dégâts dans les familles.
Lionel Gougelot à Béthune, dans le Pas-de-Calais. On ne vous laissera pas tomber, avait promis Jean Castex fin septembre aux salariés de Bridgestone. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est beaucoup investie dans ce dossier. Elle est allée sur place à plusieurs reprises. Le gouvernement avait donc promis de trouver une solution.
Oui, et ce soir, l'opposition politique s'indigne, Louis Dragnel.
Oui, c'est un dossier qui tombe mal pour le gouvernement. L'opposition a immédiatement réagi pour s'indigner, à commencer par Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.
Le bras de fer continue parce qu'il faut que Bridgestone arrête de jouer la montre et arrête de jouer avec les nerfs des salariés. Mais maintenant, ils ne vont pas partir comme ça. Ils ne vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir.
La présidente du Rassemblement national, qui est aussi députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, a, elle, désigné un responsable. C'est l'échec d'un État sans vision stratégique et c'est un drame pour toute notre région. De son côté, le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, a attaqué nommément le chef de l'État. Les discours de Macron sur la souveraineté industrielle, c'est du flan.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Le jugement pour l'anesthésiste de la maternité d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques à présent, jugé pour homicide involontaire après la mort d'une jeune mère de famille.
Il y a 6 ans, elle était intervenue ce jour-là sous l'emprise de l'alcool lors d'un accouchement par césarienne. Une série d'erreurs avait conduit à la mort de la maman. Stéphane Place, l'anesthésiste qui a reconnu les faits, écope donc de 3 ans ferme.
Oui, une condamnation conforme aux réquisitions. 3 ans de prison, c'est aussi la peine maximale pour homicide involontaire. Xin Kaok, en septembre 2014, accouche par césarienne dans cette clinique d'Orthez. Une opération qui tourne au cauchemar pour cette jeune femme de 28 ans. La patiente se réveille, gémit, articule péniblement qu'elle a mal. La malheureuse, dont l'enfant est sauvé, succombera, elle, 4 jours plus tard. Ivre au moment de l'intervention, mélange d'eau et de vodka pour commencer la journée. L'anesthésiste belge a en fait multiplié les erreurs, intubé les voies digestives, pas les voies respiratoires. Durant l'audience, Helga Wauters a brièvement pris la parole pour dire qu'elle regretterait cette tragédie toute sa vie. Aujourd'hui, le tribunal a interdit définitivement à cette médecin belge de 51 ans, alcoolique, d'exercer la médecine. Helga Wauters, qui vit en Belgique, va devoir se présenter devant le juge de l'application des peines pour un aménagement ou pas. À l'époque des faits, elle avait effectué 2 mois de détention provisoire.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite du journal d'Isabelle Millet. On suit bien sûr la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre qui fait le point en ce moment sur l'évolution de la crise sanitaire et qui nous dit que cette seconde vague est extrêmement forte. 40%, dit-il, des personnes admises en réanimation auraient moins de 65 ans. Le Premier ministre qui ne devrait pas, en revanche, décider tout de suite, en tout cas, d'un assouplissement du confinement. On devrait attendre cela, pas avant le 1er décembre.
Oui, et pas d'assouplissement non plus des mesures de restriction. Jean-Rémy Baudot, qui est sur place à Matignon, nous appelle dès qu'il a des informations supplémentaires. Les commerçants en particulier, vous le savez, aimeraient bien entendre ce soir qu'ils ont le droit de rouvrir les commerces non essentiels. Faute de réouverture, ils espèrent à minima un calendrier afin de pouvoir s'organiser. On verra si ce sera le cas.
Et en attendant cet après-midi, des éditeurs et des écrivains se sont justement réunis à Paris en ce jour de prise de parole de Jean Castex pour une action symbolique à bord d'une péniche sur la Seine, Pierre Herbulot.
Oui, pour naviguer sur la Seine en plein cœur de ce qu'ils appellent la capitale du livre. Ils n'ont pas 36 000 revendications, ils n'en ont qu'une, comme le dit Jérôme Calais, bouquiniste parisien.
La réouverture, tout simplement, moi j'ai plein de mes collègues qui m'appellent au quotidien en me disant « Mais alors, quand est-ce que tu crois qu'on va pouvoir ouvrir ?» Parce que bon, en plus on a pris des mesures, tout le monde a ses flacons de gel, tout le monde a son masque.
Tour à tour, libraires, éditeurs et auteurs ont pris la parole.
Il n'est pas possible que Macron trouve ça normal qu'il y ait des bâches sur les bouquins. Donc à un moment donné, le métier d'un chef de l'État, c'est aussi d'arbitrer entre des groupes de pression. Soyons groupe de pression de notre culture.
Même s'il ne croit pas vraiment à l'annonce d'une réouverture des librairies ce soir, Johan Sfar, qui vient de sortir le 5e tome de l'Arabe du futur, est venu défendre ce qu'il appelle la chaîne du livre.
Je pense que les libraires ont raison. Je pense que le livre n'est pas un produit comme un autre. On ne peut pas survivre sans livre. Et je vois bien les railleries de gens qui disent « Mais vous pouvez bien vous passer de livre pendant quelques semaines ?» Non. Et on n'est pas aveugle au drame sanitaire que vit le pays. On considère juste que le livre est un produit exceptionnel.
Alors, vous le disiez, c'était une action symbolique, un échange interprofessionnel, mais qui ressemblait à s'y méprendre à une manifestation, évidemment interdite en période de confinement. Ce que la police fluviale s'est chargée de rappeler à tout le monde en abordant le bateau, en le raccompagnant au quai et en contrôlant toutes les attestations à sa sortie.
Et la vôtre donc également. Merci Pierre Herbulot.
Et donc des réponses dans les minutes qui viennent avec l'annonce des arbitrages par Jean Castex. C'est en ce moment, on suit ça évidemment en direct et en fil rouge sur Europe 1.
Avec en particulier toujours l'incertitude sur le sort des lycées où les mesures sanitaires devraient être encore renforcées, mais a priori pas de fermeture pour l'instant.
Ce coup de théâtre à présent dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, l'homme d'affaires Ziad Takieddine s'est rétracté.
Oui, il retire toutes ses accusations à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui du coup demande l'annulation de sa mise en examen. Annulation peu probable, d'autant qu'il y a eu cette mise au point, hein, il y a quelques instants, du parquet national financier. Les charges contre Nicolas Sarkozy ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne, mais se basent sur des indices graves et concordants.
Et... Oui. Et puis toujours à propos de Jeux Olympiques et de Covid, maintenant on parle des Jeux Olympiques qui se tiennent à Tokyo l'an prochain, qui ont donc été repoussés d'un an. Casse-tête en vue, on vous le disait dans le teasing juste avant la pause, pour l'organisation et pour l'accueil du public.
Oui, effectivement. Et Corinne Boulou, les Japonais se préparent à toutes les éventualités, et notamment celle d'une épidémie qui serait encore active. Et parmi les dispositifs étudiés, il y en a un, Corinne, qui vous a interpellée.
Oui, le comité d'organisation a émis l'idée de demander au public de rester zen en tribune, d'éviter de hurler sa joie ou sa déception pour éviter tout simplement de répandre des postillons vecteurs du virus. Je vous entends sourire derrière vos masques, mais cette mesure a vraiment été mise en place le week-end dernier lors d'une compétition de gymnastique au Japon en présence de 2000 spectateurs masqués après désinfection des mains et prise de température. Le public avait pour consigne de ne pas crier et de parler à voix basse, consigne visiblement respectée, pour que ce matin, le comité d'organisation des Jeux évoque la possibilité d'adapter ce monde du silence en tribune olympique l'été prochain. Le CIO se dit de plus en plus confiant sur la présence de spectateurs en nombre raisonnable tout de même à Tokyo. Le comité d'organisation s'interroge, lui, sur la faisabilité d'interdire toute acclamation. C'est vrai que des Jeux sans ferveur, autant les organiser à huis clos, là au moins, il n'y aura pas de postillons en tribune, mais on peut comprendre les organisateurs japonais qui avancent vers l'échéance sans certitude et tentent de trouver des solutions aussi étonnante soit-elle, pour maintenir l'événement.
Merci beaucoup Corinne Boulou.
Et puis annonce à l'instant de Jean Castex, il serait irresponsable, dit le Premier ministre, d'alléger ou de lever les mesures. On laisse donc le dispositif inchangé pendant encore 15 jours, dit-il.
Julien, je voudrais qu'on écoute ensemble quelques notes de musique. C'était le 13 novembre 2016, un an jour pour jour après les attentats des terrasses et du Bataclan, la première fois que l'on entendait de nouveau de la musique dans la salle de concert. Demain, ce sera le cinquième anniversaire de cette tragédie qui a fait 90 morts. Et cet artiste qui rejouait au Bataclan, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Sting. Sting qui sera demain l'invité exceptionnel de Mathieu Béliard à 7h40 dans le tête-à-tête d'Europe Matin. Il reviendra sur ce moment qui a évidemment marqué sa vie.
Bien sûr, interview exclusive donc à découvrir demain dans la matinale de Mathieu Béliard. Merci Isabelle, à tout à l'heure pour le rappel des titres avec les dernières infos concernant les annonces de Jean Castex. Et puis bien sûr, on vous retrouve à 19h pour le grand journal de l'info. 18h14, la météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce malheureusement une dégradation du temps demain.
Oui, mais ça va juste se contenter à vendredi parce que le beau temps revient dès samedi. Donc vraiment, c'est une journée où il va falloir prendre son mal en patience demain. Alors cette nuit, nous avons une perturbation qui entre sur le pays par la Bretagne. Demain matin, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Donc vous l'avez compris, sur tout le quart nord-ouest du pays, le ciel est couvert, le temps humide avec quelques averses. C'est sur les Pays de la Loire qu'il va le plus pleuvoir demain matin. En Lorraine aussi, et en Alsace, nous aurons quelques petites gouttes demain matin. Et puis de la Vendée à l'Alsace, en passant par le centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, sur toutes ces régions, demain le ciel va alterner entre nuages et éclaircies, ça reste assez couvert. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme depuis plusieurs jours, pas mal de brouillards matinaux, soyez prudents. Et puis dans le sud, au bord de la Méditerranée, toujours ces entrées maritimes. C'est vrai que nous avons un programme avec cet anticyclone qui stagne au-dessus de la France. Nous avons un programme assez répétitif, à part voilà, un peu plus de nuages pour demain. Les températures, elles sont toujours les mêmes, toujours 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 5 à 11 demain matin, 14 à 17 sur la moitié nord demain après-midi et 16 à 22 degrés dans le sud.
Voilà, c'est carrément le printemps. Hein.
Ah bah dans le sud, c'est le printemps.
16 à 22 degrés, incroyable.
Et
merci.
C'est dans le sud-ouest qui fera le plus beau demain.
Bien, merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe Soir, Julien Bugier.